qui découvre la foi chrétienne, qui a envie d'en savoir plus sur la foi chrétienne. On est disséminés dans différents endroits de la région, certaines fois en présence, certaines fois par Zoom. Et puis, on découvre chaque fois des piliers de la vie chrétienne et quel sens ces piliers peuvent donner à nos vies, à ma vie. Et ce matin, on va moins peut-être parler du sens que parler de la vie. Comment finalement habiter ma vie? Comment vivre tout simplement en chrétien? Comment habiter ma vie en chrétien? Ça se passe avec deux choses. C'est de savoir d'abord où est-ce qu'on cherche des réponses. Je vous la pose chaque fois, hein, cette question. Où est-ce qu'on cherche des réponses? Et la première réponse que l'on donne en tant que chrétien, et peut-être la seule, c'est qu'on cherche des réponses auprès de Jésus, auprès du Christ. C'est là que le chrétien trouve des réponses. Et puis si on essaye un peu d'incarner d'une certaine manière, de rendre plus palpable, qu'est-ce que ça veut dire d'aller chercher des réponses auprès de Jésus, qui est quand même pas directement à côté de nous, on trouve ces deux piliers de la foi chrétienne, la Bible et la prière. On trouve ces réponses-là, la volonté de Dieu, dans la Bible et dans la prière. Et puis je crois que notre vie chrétienne peut vraiment se résumer en une action très simple, c'est que la Bible et la prière sont finalement et tout simplement la respiration du chrétien. Si un chrétien ne prie plus ou ne lit plus sa Bible, il est un peu en insuffisance respiratoire. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de se retrouver dans une unité de soins intensifs à différents degrés. Ça fait partie de la vie du chrétien de lire la Bible, de la méditer, de la mâcher et de prier. C'est vraiment une respiration du chrétien s'il veut vivre sainement sa vie et bénéficier de toutes ses capacités. Si on se lance dans une, même une petite marche, on a besoin de respirer. Respirer, c'est aussi quelque chose que finalement on fait presque sans s'en rendre compte. Si maintenant je vous ai rendu attentif, vous allez être attentif à votre respiration, je suis sûr. Mais si je ne vous avais pas rendu attentif, c'est impossible de se rendre compte qu'on respire. On le fait dans un mouvement naturel. Et puis là, je crois que c'est un peu l'idéal de la vie chrétienne, je crois. C'est que cette méditation de la Bible et cette vie de prière, ce soit le plus naturel possible, un peu comme une respiration. Alors, on se rend compte qu'elle est souvent un peu saccadée, la respiration, parce qu'il y a difficultés, il y a différentes choses qui nous viennent. Mais j'aimerais vous laisser cet idéal d'une vie chrétienne alimentée par la Bible et la prière, qui soit, dans cet idéal, aussi simple que la respiration, et finalement presque aussi naturelle que la respiration qu'on fait des milliers de fois chaque jour. Et puis pour continuer l'illustration, pour moi, la Bible, c'est le moment où on inspire, où on remplit ses poumons, où on prend ce que la parole a à nous donner. Et on va le voir à la suite de cette prédication, elle a énormément de choses à nous donner. Et je crois que c'est là la visée voulue par Dieu. C'est de pouvoir donner un sens à notre vie, parce que quand on est inspiré par quelque chose, on se met en mouvement, et on se met en mouvement de manière la plus adéquate possible avec ce qu'on a reçu. Ça nous inspire, ça nous donne un élan, ça nous donne une direction. Et je crois que le rôle de la Bible, c'est ça, une inspiration qui n'a pas de fin. Et la prière, je la vois vraiment dans le sens inverse, le mouvement inverse de la respiration, l'inspiration, il y a l'expiration. Et la prière, je la vois dans ce sens-là, c'est notre réponse en tant que femme, en tant qu'homme, vers Dieu. Et puis là, on a un mouvement qui est très naturel, hein. On s'inspire, on puise à la source, parce que où cherche-t-on les réponses? Auprès de Jésus. Et la meilleure manière qu'on a trouvée encore jusqu'à l'heure actuelle, c'est de se laisser inspirer par ce que nous a dit dans la parole que Dieu a voulu nous laisser pour nous dire qui il était, pour nous dire qu'est-ce qu'il voulait pour nous en tant qu'être humain. Et ensuite, on n'en reste pas seulement là. On a besoin d'expirer et puis de dire à Dieu en quoi cette aspiration m'a nourri, comment je l'intègre dans ma vie, comment est-ce que je lui pose aussi des questions par rapport à des éléments que je n'ai pas compris, comment est-ce que je lui exprime aussi certaines fois, j'ai encore rencontré quelqu'un cette semaine, des colères par rapport à des éléments avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est même possible, hein, je ne sais pas si vous le saviez. Tout ça peut être intégré dans cette expiration. Je reçois de Dieu une inspiration et j'expire. Et ça, ça signifie qu'on a une vie chrétienne vivante. Une vie chrétienne non vivante, c'est quand on cesse d'expirer ou on cesse d'inspirer. Une vie chrétienne vivante, ça peut contenir toutes sortes de questions, voire même par exemple de doutes, mais par contre, ça continue de s'exprimer, ça continue d'expirer. Alors, comment lire la Bible? Là, je vous ai un peu donné le pourquoi. J'aborde maintenant un peu le comment et je vais vous laisser simplement deux choses. C'est de pouvoir se laisser guider tout au long de l'année par les textes qui sont en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est particulièrement, je trouve, le cas pour cette période de Pâques. Ce sera le cas pour la période de l'Ascension. Ce sera le cas pour la période de Pentecôte. Ça sera le cas pour beaucoup de périodes de notre vie qui finalement sont calquées sur le rythme biblique ou le rythme des évangiles. Et ce matin, j'avais envie de vous laisser, parce qu'il y a mille trucs pour comment lire la Bible, puis je me suis dit qu'une fois, ça pourrait être pertinent de dire, mais quelle phase de vie est-ce qu'on est en train de vivre et en quoi la Bible peut nous aider, peut nous inspirer à ce moment-là. Et voilà ce qu'il nous a dit dans l'évangile de Matthieu cette fois. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagé, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. » Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose et vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. Et ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, « Regarde, ton roi vient vers toi. Ce roi, il est plein de douceur. Ce roi, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent aussi sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David !» Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ou, dans le langage original, « Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Mais qui est donc cet homme ?» Et les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. » Amen. Quand je vous ai dit que la Bible était là pour nous inspirer et nous donner des réponses sur ce Jésus vers qui on va chercher nos réponses en tant que croyants. Alors là, dans ce chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, parce que c'est là que se situe ce texte dans la Bible, on a des éléments de réponse pour nous dire qui est ce Jésus en qui nous mettons notre confiance. Qu'est-ce qu'il nous a dit de lui ? Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi, il vient vers toi. Si je suis un tout petit peu didactique, là, qu'est-ce qu'on apprend dans la Bible ? Qu'est-ce qui nous inspire ? Que ce n'est pas un roi qui reste coincé sur son trône, c'est un roi qui vient pas vers nous en tant que grosse foule, il vient vers toi personnellement. C'est tout simple, hein? C'est une petite phrase de la Bible. Et juste avec cette petite phrase de la Bible, on en apprend énormément sur qui est Jésus. Et même, on est un peu face à un mystère, puis une question. Comment un roi, avec toute notre représentation, peut décider de venir vers moi, petit David, citoyen suisse au XXIe siècle? Comment imaginer cet élément-là? Et pourtant, c'est vraiment un des piliers de notre foi, c'est un des cœurs de notre foi chrétienne. Ce Jésus, en qui nous croyons, il ne reste pas coincé sur son trône, il vient vers nous, il veut cette rencontre, cette intimité avec nous. Et ce roi, de nouveau, c'est un élément étonnant, il est plein de douceur. Je crois que si je devais faire un petit sondage de la rue, savoir quel est le premier adjectif qu'on donnerait pour un roi, ce serait quasiment jamais l'adjectif doux qui irait avec un roi. Et pourtant, Jésus, il est présenté de cette manière-là. Donc voilà deux petits exemples, tout simples, de comment finalement la Bible peut inspirer notre manière de voir les choses, peut inspirer et nous faire mieux comprendre vers qui nous cherchons les réponses, et peut-être peut nous inspirer sur notre manière d'être en tant que chrétien au monde. Est-ce que j'ai envie d'aller vers les gens, et est-ce que j'ai envie d'aller vers les gens avec de la douceur? Ça donne déjà un parcours, tout un programme de vie, hein, de se dire qu'on va à la rencontre des gens, et ma caractéristique d'aller à la rencontre des gens, elle sera empreinte de douceur. Je trouve ça magnifique. Alors, un petit exemple de ce que la Bible peut nous dire de où on cherche les réponses. C'est aussi assez intéressant parce qu'on s'est un peu concerté avec Seb quand même pour avoir une forme de cohérence. Ça fait aussi dans la Bible quelque chose qui est assez courant, c'est qu'il y a des échos dans la parole. C'est-à-dire que la Bible, je ne vous apprends rien, je pense, mais pour certains, peut-être que j'apprends quelque chose. Il n'y a pas un seul livre, mais il y en a 66. Et souvent, ces 66 livres se répondent les uns les autres. Parce que je viens de vous lire là, ce dit à la ville de Sion, ce n'est pas Matthieu qui l'a écrit, il a repris ça chez le prophète Ésaïe. Et il dit, ce prophète, bien en avance, des choses très pertinentes sur qui sera Jésus. Et Matthieu, il l'intègre dans son texte. C'est pour dire que quand on commence à se laisser inspirer par la parole, on n'en a pas fini de voir ces échos qui se font de gauche, de droite, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui se font finalement miroirs et puis qui nous donnent une richesse qui est impressionnante. Il y a une diversité interne dans la Bible qui est voulue par Dieu. Je ne sais pas quelle image vous avez de la Bible. Souvent, c'est perçu comme un peu un monolithe, un livre un peu qui peut nous tomber dessus, rigide. Alors que si on commence à vraiment le découvrir, on se rend compte qu'il y a une diversité à l'intérieur de la Bible, de la parole, qui est extraordinaire. Et juste dans le petit exemple que je vous ai donné ce matin, de ce texte qui correspond au jour que l'on est en train de vivre, du dimanche des Rameaux, on se rend compte qu'il y a des échos de cette diversité-là, simplement par la citation que je viens de vous faire, qui nous dit énormément de choses sur qui est Jésus. Il y a une diversité interne qui, pour moi, est une grande source d'inspiration. Cette diversité, elle n'est pas là pour nous mettre en difficulté, elle est là pour vraiment nous donner cet enrichissement. Toutes ces facettes de Dieu différentes, on les trouve dans la parole. Et non seulement il y a cette diversité interne entre Ancien et Nouveau Testament, mais même pour raconter l'histoire de Jésus, Dieu a choisi de nous la livrer sous quatre formats différents. Quatre personnes qui composent ces quatre évangiles nous donnent quatre images différenciées de Jésus. Le texte que Sébastien a lu, si vous le comparez avec le texte que moi j'ai lu, ce ne sera pas le même. Or, certains pourraient s'en offusquer puis dire, mais alors, où est la vérité? Comment ça se fait? Ce que je pense, Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'il est impossible d'avoir un regard unique, mais que cette plénitude de regard ou cette pluralité de regard, c'est même voulu par Dieu pour décrire qui est son Fils Jésus. Et ce n'est pas rien. L'élément le plus important, central de notre foi, il est décrit pas par un seul regard, mais par quatre regards différents. Et là, de nouveau, ce n'est pas pour nous faire peur puis se dire que la vérité se dilue, c'est plutôt pour nous dire que la vérité, par essence, elle est diversifiée. Et Jésus lui-même est présenté de manière diverse. Donc là, je vous encourage, je vous avais encouragé au début de cette série à lire tout l'évangile de Matthieu Avant d'arriver jusqu'à Pâques, je ne vais pas vous faire lever la main, savoir où vous en êtes. 1, 2, 3, 5, 10e chapitre, 15e chapitre, je ne sais pas, ce n'est pas le but. Mais de se dire que quand on prend par exemple cet évangile de Matthieu, on le compare avec celui de Luc, il y a cette forme d'enrichissement que moi je ne peux que vous encourager à vivre. Souvent dans les Bibles, c'est marqué, si vous lisez par exemple ce chapitre 21 de Matthieu, il y aura une petite notice dessous qui dira que dans Luc, c'est dans le chapitre 19, dans Marc, dans un, je ne sais plus tout par cœur quels sont les chapitres qui sont considérés. Mais il y a cet enrichissement que je nous encourage à vivre parce que ça inspire. C'est une diversité qui fait partie de la vie et ça signifie aussi que cette parole nous rejoint aussi dans des situations très diverses de nos vies. On n'a pas des vies linéaires où il se passe tout le temps la même chose, jour après jour, métro, boulot, dodo. Je crois qu'on a des vies beaucoup plus riches que ça. Et la parole, précisément, avec cette diversité extraordinaire, a cette capacité de nous rejoindre là où nous sommes, l'instant T où nous la méditons. C'est un peu le pari qu'on fait quand on ouvre la Bible, c'est que cette diversité, elle rejoigne nos diversités de vie. Et pour la prière, finalement, c'est exactement la même chose. On a une diversité de types de prières qui est absolument extraordinaire. On peut prier, par exemple, ce qu'on a reçu directement du texte. C'est ce qu'on essaye de faire quand on fait des lectures divinales, jeudi soir, lors du culte du jeudi soir, où on se laisse vraiment imprégner par le texte, puis on essaye même de redonner à Dieu en prière une partie du texte biblique. Ça peut être une prière de demande, ça peut être une prière pour quelqu'un d'autre, ça peut être une prière pour essayer de mieux cerner qui est Dieu. Ça peut être aussi une quantité de prières et de types de réponses différentes. Et là aussi, cet élément de diversité et cet élément de faire écho à la parole, on les retrouve de manière très forte. Notre prière, elle est diverse. Et je nous encourage aussi là à élargir nos manières de prier. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Il n'y a pas qu'un seul type de prière. On peut ouvrir très largement nos manières de prier. Parce que aussi, si on la considère toujours comme cette réponse à ce que Dieu nous donne, nos réponses, elles seront diverses selon les jours que l'on traverse, selon les périodes de vie qui sont les nôtres, selon ce qu'on est en train de vivre au niveau de nos émotions. Et là aussi, moi, je vous encourage, et je nous encourage à utiliser cette palette impressionnante en toute liberté avec Dieu. Pas de se dire, je dois prier d'une certaine manière. J'entends souvent la remarque suivante, c'est de se dire... Moi, j'ai un peu de la peine à prier parce que je ne sais pas prier. Je n'ai pas les bons mots. Je n'ai pas exactement la bonne formulation. Et puis, on aligne les excuses. Et puis, je crois que c'est un peu un faux débat d'une certaine façon parce que si on considère la prière simplement comme ma réponse, avec mes mots, avec ma sensibilité, avec simplement qui je suis, Dieu va l'accueillir à bras ouverts. Il n'y a pas besoin de savoir si c'est le bon mot de vocabulaire ou si vous avez exactement cité le bon verset. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est de se dire quelle est ma réponse, cette expiration que j'offre vers Dieu, que je fais monter vers Dieu. Alors je nous encourage à nous laisser inspirer, parce que dans cette inspiration, cette expiration, en tant que croyant, on pense qu'on est habité par l'Esprit Saint. On pense que l'Esprit Saint fait bouger ses lignes d'inspiration, fait bouger ses lignes d'expiration, et que c'est lui qui donne cette vie-là, ce mouvement-là, à nos vies croyantes. Alors que chacune, chacun, on puisse repartir de cette maison, que chacune, chacun, chez vous, avec ce que j'essaie de vous transmettre, on puisse cette semaine se laisser inspirer et penser vraiment à cette respiration, lire la Bible, prier comme ma réponse à Dieu. Amen.